Edith Dequin, bonjour.
Bonjour.
La radio, c'est quelque chose qui vous a frappé, et surtout les voix. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça induit chez vous?
Disons que déjà, je travaille toujours en écoutant la radio, et depuis qu'on peut notamment conserver la radio avec les podcasts, j'écoute toujours la radio en travaillant. J'écoute pas de musique. J'ai jamais écouté de musique en. Et donc, mon rapport à la radio, voilà, c'est un rapport historique, je dirais, vu l'âge que j'ai, où la radio était quand même très importante. Je ne sais pas si elle est encore aussi importante pour les nouvelles générations, mais je trouve que ça suscite beaucoup de choses, ça aide beaucoup à la méditation. Et en même temps, ça crée des images d'écouter la radio. Et je trouve ça beaucoup plus riche que le fait de regarder la télévision. On a craint d'ailleurs que la radio allait disparaître avec Internet, et apparemment la radio ne s'est jamais aussi bien portée. C'est ce que j'ai entendu récemment. J'avais toujours été vraiment très impressionnée par l'émission radiophonique qu'Orson Welles avait fait aux États-Unis et qui avait suscité une panique générale. Et donc je m'étais souvent. Enfin, c'est vraiment une pièce qui m'a toujours beaucoup, beaucoup intéressée. Et j'ai fait des pièces radio, d'ailleurs. J'ai fait une pièce pour France Culture. Et oui, donc la radio, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui parle de la même manière à beaucoup, beaucoup de gens. Il y a la notion du direct, quand même, qui est toujours là. Et c'est vraiment quelque chose comme pour moi une petite Madeleine de Proust, parce que réécouter par exemple quand on a des archives radio, il y a toujours quelque chose de très intéressant au niveau de comment la voix se transforme avec les années, la manière de parler, les expressions. Et moi, je trouve que c'est vraiment un monde fascinant, la radio en tout cas.
La radio, c'est forcément une approche particulière de l'auditeur, du spectateur d'une manière générale. Ici, dans votre travail, enfin, il y a plusieurs pièces. Quelles sont celles qui s'adressent davantage peut-être à l'oreille du visiteur?
Disons que la pièce qui est montrée ici, la pièce principale, je dirais, c'est L'ennemi du peintre. Et dans ce cas-là, le son est prépondérant. Et je l'ai appelée L'ennemi du peintre parce que c'est le surnom d'une toute petite fleur qu'on trouve d'ailleurs beaucoup dans le nord de la France et en Belgique. Et ma grand-mère, dans son jardin, me dit toujours. Ces fleurs-là, les peintres sont incapables de les peindre, et ça s'appelle l'ennemi du peintre. Et donc, j'avais toujours gardé en mémoire le nom de cette fleur, parce que je dessinais beaucoup, et je me disais, un jour, j'y arriverai. Et donc, j'ai choisi ce titre-là, parce que, justement, on n'est pas dans la notion de représentation des choses, on est plus dans une espèce de cinéma sans images. Il y a des images, il y a des schémas, mais qui sont juste là pour un peu évoquer des espèces de stations, comme on dirait les stations du Christ qui dans une église, par exemple. Mais elles sont plus là, oui, comme des arrêts où on se pose et on écoute des choses. Donc on écoute cette voix qui est volontairement un peu hypnotique. Elle est toujours sur un ton très monocorde. Donc ça, c'est un travail que j'ai fait avec le comédien qui a fait l'enregistrement. Et donc voilà, la notion de la voix est très très importante, notamment dans cette installation-ci.
La voix plus que le contenu ou l'histoire.
Non, le contenu est important parce que, en fait, ce sont tous des textes que j'ai écrits à partir de faits réels, trouvés soit dans la presse, dans des publications, dans des livres ou entendus aussi, quelquefois à la radio. Et le contenu pour moi est vraiment important, mais il est dit d'une manière, et en tout cas il est dit dans un ordre, il est écrit d'abord dans un ordre, d'une manière qui fait douter de la véracité en fait de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend pour moi est très important parce qu'il s'agit de tous les domaines, enfin une partie, c'est pas l'entièreté des choses qui m'intéressent, mais il y a quand même une espèce de concentré des choses qui m'intéressent, que ce soit les sciences, les pseudosciences, l'anthropologie, la musique, la synesthésie, les fleurs, les plantes, qu'est-ce qu'est un être vivant et comment un être vivant qu'on côtoie tous les jours comme la nature, les fleurs par exemple, comment ces êtres-là perçoivent le monde, j'en suis persuadée, ils le perçoivent d'une façon. Donc tous ces textes sont quand même vraiment importants pour nous baigner vraiment dans l'ambiance de la pièce.
Donc il y a la pièce, puis il y a la pièce, c'est-à-dire l'espace, le lieu qui a son caractère propre, on va dire, et que vous avez essayé de décrypter.
Le lieu du frais. Bah, disons qu'à chaque fois que je mets en place une pièce, quelle qu'elle soit, je tiens toujours compte du lieu. Donc c'est vraiment, pour moi, le lieu est aussi important que la pièce. Le lieu où on met la pièce est aussi importante que la pièce elle-même. Et donc ici, il s'agit d'une ancienne, c'est à présent un lieu d'exposition, une école, mais ça a été pendant des années un lieu de distraction, des milieux populaires, une salle, notamment une salle de danse. Donc des gens sont venus ici, ont dansé, sont rencontrés. Et donc voilà, c'est la disposition par exemple des fleurs dans la grande nef peut faire penser à un mariage ou à des danseurs. Donc voilà, j'ai tenu compte vraiment, je fais toujours, du lieu.
En même temps, vous avez demandé à quelqu'un de très particulier d'en faire ressortir des caractéristiques très spéciales.
Oui, j'ai demandé, donc ça c'est une pièce que je fais de temps en temps en espèce d'ombre ou de double de l'installation. J'ai demandé à un radiesthésiste de faire une étude radiesthésique du lieu. Et donc c'est quelqu'un qui travaille avec l'échelle de Bovis, qui est assez couramment utilisée par les radiesthésistes, c'est-à-dire que la fréquence qu'ils perçoivent du sol avec les baguettes ou avec le pendule, ici il a travaillé avec des baguettes, est traduite directement en couleur. Donc les radiesthésistes qui ont l'habitude de travailler avec cette échelle de Bovis, ils ressentent les vibrations du sol directement en couleur, ils arrivent à faire cette lecture-là. Et donc un radiesthésiste est venu au Fresnois à étudier le sol partout. Et donc dans toute l'installation, l'ennemi du peintre, il y a ces couleurs qui sont présentes au niveau des forces du sol ici. Donc c'est un peu des manières dont on peut percevoir aussi l'espace. Et par intermittence, l'ensemble du lieu est éclairé par ces couleurs de Bovis également, parce que le radiesthésiste a fait une étude sur tout le lieu.
Est-ce que le Fresnois est un lieu positif ou négatif ?
Mais bizarrement, parce qu'il y a quand même beaucoup de technologie et de technique. Et puis on est dans un lieu qui était couvert puis recouvert. Et en fait, malgré tout ça, c'est un lieu qui a eu relativement une bonne énergie. Alors c'est sans doute dû au fait que ça a été un lieu de joie, tout compte fait. Apparemment, ça peut être important. Il n'y a que quelques points qui sont différents. Il y a vraiment une grande variété de qualités, mais dans l'ensemble, c'est un lieu qui a des très bonnes vibrations.
Donc un lieu propice notamment aux études d'art qui s'y font.
Ben oui, je suppose, je présume.
Merci d'être intervenu et quel travail pourrons-nous voir prochainement dans d'autres lieux ?
Alors, à partir de lundi, j'installe une pièce au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Et puis, ensuite, je fais une expo à Berlin, à la galerie Konrad Fischer, avec qui je travaille. Et puis, à partir du mois de mai, une installation à la Biennale de Venise. Et aussi au Musée de Varsovie, prochainement aussi.
Le theremin, ou hétérophone, est le plus ancien instrument de musique électronique. Il a été inventé par le russe Lev Sergeyevitch Theremin. Composé d'un boîtier électronique équipé de deux antennes, l'instrument a la particularité de produire du son sans être touché par l'instrumentiste. L'objet utilise le corps du musicien comme conducteur électrique. Après une démonstration, Lénine prit des leçons et en commanda 600 exemplaires afin qu'ils soient distribués partout en URSS. Il pensa même détruire tous les instruments de musique classique qui ne correspondaient plus à l'esprit de la Révolution. Un peu plus tard, Lev Sergeyevitch Teremin créa l'Illuminovox. L'instrument, connecté à l'hétérophone, projetait une évolution des couleurs du spectre correspondant directement aux hauteurs de timbre. Les correspondances étaient pour les basses, près de l'infrarouge, ensuite de plus en plus élevées, se déplaçant à travers l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet, jusqu'au plus haut timbre tendant vers l'ultraviolet.